Manuscrit 163. Fanatisme et questions annexes. Le Seigneur va bientôt travailler parmi nous avec plus de puissance, mais nous courons le risque de laisser nos émotions nous mener là où il ne veut pas que nous allions. Nous ne devons pas faire un pas sur lequel nous devrons revenir. Nous devons agir avec sérieux et prudence, et ne pas faire usage d'expressions extravagantes ou laisser nos sentiments s'exacerber. Nous devons réfléchir calmement et travailler sans excitation, car certains s'agiteront facilement, reprendront des expressions imprudentes et auront des propos exagérés pour créer la sensation et donc contrecarrer le travail même que Dieu désire nous voir accomplir. Il existe une catégorie de personnes toujours prêtes à prendre la tangente, toujours à l'affût de quelque chose d'étrange, de merveilleux ou de nouveau. Mais Dieu désire nous voir tous agir avec calme et prudence, en choisissant nos mots pour qu'ils soient en harmonie avec la juste vérité pour notre temps. La vérité devrait être présentée aux gens dépouillés, autant que possible, de tout ce qui est émotionnel, mais avec l'intensité et la solennité qui sied à son caractère. Nous devons nous garder d'encourager les extrémistes, ceux qui se trouveraient aussi bien dans le feu que dans l'eau. Je vous supplie d'éliminer de votre enseignement toute expression extravagante, tout ce que les esprits non équilibrés ou inexpérimentés s'approprieront et qui les conduira à agir de manière brutale et immature. Il est nécessaire que vous cultiviez la prudence dans chacune de vos déclarations, de peur de conduire certains sur une mauvaise voie et d'engendrer une confusion qui exigera un long et douloureux travail pour tout remettre en ordre, détournant ainsi l'énergie des ouvriers sur des pistes qui n'entrent pas dans les plans de Dieu. Une seule manifestation de fanatisme parmi nous fermera de nombreuses portes aux principes les plus saints de la vérité. Oh, combien chaque ouvrier serait avisé de ne pas se dépêcher de passer devant le maître, mais de le suivre dans la voie qu'il ouvre. Comme cela réjouirait les ennemis de notre foi de saisir une déclaration faite par l'un de nos membres qu'il faudrait rétracter. Nous devons agir discrètement, de façon sensée, car c'est notre force. Alors Dieu travaillera avec nous, par nous et pour nous. Oh, comme Satan se réjouirait de s'infiltrer parmi ce peuple pour désorganiser le travail à un moment où une organisation rigoureuse est essentielle et constituera la plus grande force pour empêcher une contestation infondée et pour réfuter des affirmations non conformes à la parole de Dieu. Nous voulons tenir le cap, afin que le système de régulation et l'ordre ne soient pas mis à mal. Ainsi, les éléments indisciplinés ne seront pas autorisés à prendre le contrôle de l'œuvre. Nous vivons à une époque où l'ordre, l'organisation et l'unité dans l'action sont absolument essentiels. Et la vérité doit nous lier ensemble comme des cordes solides afin qu'aucun effort ne soit détourné de son but. Si des manifestations perturbatrices apparaissent, nous devons avoir un clair discernement pour distinguer le vrai du faux. Qu'aucun message ne soit proclamé avant qu'il ait subi un examen minutieux de chaque iota et trait de lettre. Mon âme est accablée, car je sais ce qui nous attend. Toutes les tromperies possibles viendront peser sur ceux qui n'ont pas une relation quotidienne et vivante avec Dieu. Les anges de Satan sont habiles à faire le mal et fabriqueront ce que certains proclameront être une lumière supérieure, nouvelle et merveilleuse. Pourtant, bien qu'à certains égards le message puisse être juste, il sera mêlé à des inventions humaines et enseignera les commandements des hommes comme doctrine. S'il n'y a jamais eu un temps où nous devions réellement veiller et prier avec sincérité, c'est bien maintenant. Beaucoup de choses apparemment bonnes devront être soigneusement considérées dans la prière, car ce sont des stratagèmes de l'ennemi pour conduire les âmes sur un chemin si proche du chemin de la vérité qu'il pourra à peine en être distingué. Mais l'œil de la foi peut voir qu'il diverge, bien que presque imperceptiblement, de la bonne voie. Au premier abord, on peut penser qu'il est la bonne voie, mais bientôt, on le voit s'écarter complètement du chemin de la sainteté et du ciel. Mes frères, je vous exhorte à marcher droit, de peur que les boiteux ne soient détournés du chemin. Dans le travail des pasteurs et des laïcs qui n'ont pas une relation quotidienne avec Dieu, il n'y a pas ce qu'il faut pour résister à l'orage et à la tempête. Un nouvel ordre des choses est apparu dans le ministère. Il y a un désir d'imiter les autres églises et la simplicité et l'humilité sont presque inconnues. Les jeunes pasteurs cherchent à être originaux et à introduire de nouvelles idées et de nouveaux plans pour le travail. Certains font des réunions de réveil et par ce moyen invitent de nombreuses personnes dans l'église. Mais quand l'enthousiasme retombe, où sont les convertis ? La repentance et la confession des péchés ne se voient pas. Le pécheur est invité à croire au Christ et à l'accepter sans que l'on tienne compte de sa vie passée faite de péchés et de rébellions. Le cœur n'est pas brisé. Il n'y a pas de contrition de l'âme. Les présumés convertis ne se sont pas reposés sur le roc, Jésus-Christ. L'Ancien et le Nouveau Testament nous montrent la seule façon d'effectuer ce travail. Repentez-vous, 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 a été le message retentissant de Jean-Baptiste dans le désert. Le message du Christ au peuple a été « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. » Luc 13, verset 5. Et les apôtres avaient reçu la consigne de prêcher partout que les hommes devaient se repentir. Le Seigneur désire qu'aujourd'hui, ses serviteurs prêchent la doctrine classique de l'Évangile, c'est-à-dire la tristesse d'avoir péché, la repentance et la confession. Nous voulons des sermons à l'ancienne, des coutumes à l'ancienne, des pères et des mères israélites à l'ancienne. On doit travailler pour le pécheur, avec persévérance, sérieux et sagesse, jusqu'à ce qu'il reconnaisse être un transgresseur de la loi de Dieu et qu'il se repente devant Dieu et ait foi en le Seigneur Jésus-Christ. Quand le pécheur prend conscience de son impuissance et de son besoin d'un sauveur, il peut venir avec espérance et foi à l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Le Christ acceptera l'âme sincèrement repentante qui vient à lui. Il ne traitera pas avec mépris un cœur brisé et contrit. Les frères ne devraient pas prendre cela pour une vertu de se tenir à l'écart parce qu'ils ne voient pas tous les points mineurs exactement sous le même jour. S'ils sont d'accord sur les vérités fondamentales, ils ne devraient pas se disputer sur des questions secondaires. S'appesantir sur des questions déroutantes ne comportant, après tout, aucune conséquence vitale, tend à détourner l'attention des vérités vitales pour le salut de l'âme. Les frères devaient se montrer très modestes lorsqu'ils insistent sur ces points secondaires que souvent ils ne comprennent pas eux-mêmes, des points dont ils ne savent pas s'ils sont la vérité et qui ne sont pas essentiels au salut. Quand des différences d'opinion existent sur de tels points, moins vous leur donnerez d'importance, mieux ce sera pour votre propre spiritualité et pour la paix et l'unité de l'Église. Les non-croyants sont critiques et cherchent des excuses pour ne pas recevoir la vérité telle qu'elle est en Jésus. Lorsque des divergences existent parmi nous, ceux qui se tiennent en dehors diront « Il sera toujours temps pour nous de croire en ce que vous croyez quand vous vous serez mis d'accord sur ce qui constitue la vérité. » C'est ainsi que le malin profite des divisions et des controverses parmi les chrétiens. Il nous faut prier pour que Dieu nous éclaire et en même temps, nous devrions être prudents en recevant tout ce qui est appelé « nouvelle lumière ». Nous devons prendre garde, lorsque nous recherchons de nouvelles vérités, à ne pas laisser Satan détourner notre esprit du Christ et des vérités spéciales pour notre temps. Il m'a été montré que c'est la stratégie de l'ennemi de détourner l'esprit des hommes vers un point obscur et sans importance, une chose qui n'a pas été entièrement révélée ou n'est pas essentielle au salut. On en fait le thème principal, la vérité présente, alors que toutes les recherches et suppositions ne servent qu'à rendre les choses plus obscures et à embrouiller les esprits de ceux qui devraient rechercher l'unité par la sanctification de la vérité. Il faut que vous soyez tous prudents au sujet de ce que vous présentez comme étant la vérité. Ne présentez pas vos propres suppositions. L'ennemi essaie de pervertir et de tordre l'esprit humain. À celui qui l'écoutera, il présentera des idées étranges et particulières qui créeront la sensation. Il les présente assortis d'une épreuve imaginée par lui. C'est ainsi que Satan induit les esprits à suivre les mauvais canaux en les détournant des véritables épreuves présentées par Dieu dans sa parole. Il n'est pas nécessaire d'entrer en conflit avec les pauvres âmes qui pensent servir Dieu en croyant à des fables. Quand nos jeunes pasteurs se font du tort et font des reproches à la cause de Dieu en plaçant la vérité solennelle et sacrée au niveau des fables, qu'on leur conseille de se convertir en étudiant de près la parole avec des hommes d'expérience qui ont depuis des années compris la vérité. qu'il se détourne des romans, des interprétations fantaisistes qui n'ont aucun fondement dans la parole de Dieu. Qu'a de commun la paille avec le froment ? Jérémie 23, verset 28. À cette époque remplie d'erreurs, de rêves et de rêveries, nous avons besoin d'apprendre les premiers principes de la doctrine du Christ. Faisons tout notre possible pour pouvoir dire, comme l'apôtre, « Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » 2 Pierre 1, verset 16. Le Seigneur nous appelle à suivre des principes élevés et nobles. Nous devons faire ressortir les principes du message du troisième ange clairement et distinctement. Les grands piliers de notre foi porteront tout le poids qui peut être placé sur eux. Les jeunes gens doivent être éduqués pour rester liés au « Il est écrit ». Paul écrit « Je t'adjure, devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte, avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. » Mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Ce temps est venu. Voici mon exhortation. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. 2 Timothée 4, versets 1 à 5. Personne ne doit torturer la vérité en plaçant une construction mystique et forcée sur la parole. Ainsi, certains courent le danger de transformer la vérité de Dieu en mensonge. Certains ont besoin du toucher de l'Esprit divin dans leur cœur. Alors le message pour notre temps sera leur fardeau. Ils ne rechercheront pas les épreuves humaines, quelque chose de nouveau et d'étrange. Le sabbat du quatrième commandement est l'épreuve pour notre temps et tout ce qui est lié au grand mémorial doit être maintenu devant le peuple. J'ai des choses à dire aux jeunes gens qui ont enseigné la vérité. Prêchez la parole. Vous avez peut-être des esprits inventifs. Vous êtes peut-être des experts, comme l'étaient les docteurs juifs, dans l'élaboration de nouvelles théories. Mais le Christ a dit à leur sujet « C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. » Matthieu 15, verset 9. Ils présentaient des traditions, des suppositions et des fables en tout genre. Les rites et cérémonies qu'ils imposaient empêchaient tout simplement le peuple de savoir s'il observait la parole de Dieu ou s'il suivait les traditions des hommes. Satan est ravi quand il peut ainsi embrouiller les esprits. Que les pasteurs n'exposent pas leurs propres hypothèses dans leurs prédications, qu'ils étudient les Écritures sérieusement, en prenant conscience avec gravité que s'ils enseignent comme doctrine des choses n'appartenant pas à la parole de Dieu, ils seront comme ceux décrits dans le dernier chapitre de l'Apocalypse. Que ceux qui sont tentés de suivre des doctrines fantaisistes et imaginaires creusent un puits profond dans les mines de la vérité céleste et obtiennent la richesse, c'est-à-dire la vie éternelle. Un précieux trésor sera le lot de ceux qui étudient la parole de Dieu avec sincérité, car les anges dirigeront cette recherche. Nos pasteurs doivent cesser de s'étendre sur leurs idées particulières, en laissant sous-entendre « Vous devez comprendre ce point comme moi, sinon vous ne pouvez être sauvés ». Débarrassez-vous de cet égocentrisme. Le grand travail à faire, dans tous les cas, est de gagner les âmes au Christ. Les hommes doivent voir Jésus sur la croix. Ils doivent regarder et vivre. Ce ne sont pas de vos idées qu'ils doivent se nourrir, mais c'est de la chair et du sang du Fils de Dieu. Il dit « Ma chair est vraiment une nourriture. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Jean 6, versets 55-63. L'âme qui accepte Jésus se place sous la protection du grand médecin. Que les hommes soient donc prudents dans leur façon d'intervenir entre le patient et le médecin, car celui-ci perçoit tous les besoins de l'âme. Le Christ, le médecin de l'âme, comprend ses faiblesses et ses maladies et sait comment la racheter par son propre sang. Il est le mieux placé pour fournir ce qui manque à l'âme. Mais les hommes veulent toujours intervenir, ils veulent en faire trop, ne laissant aucune place au Christ. C'est Jésus qui peut le mieux modeler et façonner l'âme. La conviction peut ne pas être profonde, mais si le pécheur vient au Christ et voit ce juste mort sur la croix pour les injustes, toutes ces barrières tomberont. le Christ a entrepris la tâche de sauver tous ceux qui croient en lui. Il voit les torts à redresser, le mal à réprimer. Il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. « Je ne jetterai point dehors, dit-il, celui qui vient à moi. » Jean 6, verset 37. Par la bonté et la miséricorde du Christ, le pécheur va retrouver la faveur divine. Dieu en Christ implore tous les jours les hommes de se réconcilier avec lui. Les bras tendus, il est prêt à recevoir et accueillir non seulement le pécheur, mais le Fils prodigue. Son amour, manifesté au calvaire, est l'assurance pour le pécheur d'être accepté, aimé et en paix. Enseignez ces choses le plus simplement possible, pour que l'âme assombrie par le péché puisse voir la lumière émanant de la croix du calvaire. Satan agit de très nombreuses façons. Il s'emploie à occuper l'esprit des hommes, chargé de prêcher le message à de belles théories auxquelles il confère une ampleur et une importance apparentes. Et tandis qu'ils pensent avancer à grands pas dans leur expérience, ils idolâtrent quelques idées. Leur influence est altérée et fait bien peu de choses en faveur du Seigneur. Que chaque pasteur s'efforce de savoir ce qu'est l'Esprit du Christ. Certains choisissent dans la parole de Dieu, et aussi dans les témoignages, des paragraphes ou phrases isolées pouvant être interprétées dans le sens de leurs propres idées. Et ils s'étendent dessus et se confortent dans leur position, quand Dieu ne les conduit pas. Maintenant, tout ceci fait plaisir à l'ennemi. Nous ne devrions pas choisir sans nécessité une voie qui créera des différences et causera des dissensions. Nous ne devrions pas donner l'impression de penser que si nos idées ne sont pas suivies, c'est parce que les pasteurs manquent d'entendement. Il y a, dans les leçons du Christ, quantité de sujets dont vous pouvez parler, mais il vaudrait mieux que les mystères que ni vous ni vos auditeurs ne peuvent comprendre ou expliquer soient laissés de côté. Donnez au Seigneur Jésus-Christ lui-même la possibilité d'enseigner, que par l'influence de son esprit, il ouvre le merveilleux plan du salut à la compréhension. Une période de trouble s'annonce pour le peuple de Dieu. N'y faisons pas sans cesse référence, sous peine d'en faire subir une au peuple avant l'heure. Il va y avoir un bouleversement parmi le peuple de Dieu, mais ce n'est pas la vérité présente à apporter aux églises. Ce sera le résultat du rejet de la vérité présentée. Les pasteurs ne devraient pas penser qu'ils possèdent des idées merveilleuses et innovantes et qu'à moins que tous les reçoivent, ils seront expulsés et un peuple se lèvera pour avancer jusqu'à la victoire. Le but de Satan s'accomplit tout aussi sûrement quand les hommes devancent le Christ et font le travail qu'il ne leur a jamais confié, que quand ils restent dans l'état de l'église de Laodicée, c'est-à-dire tiède, se sentant riche et prospère, n'ayant besoin de rien. Ces deux catégories sont des pierres d'achoppement. Certains individus zélés, qui consacrent toute leur énergie à l'originalité, ont commis une grave erreur en essayant de présenter aux gens quelque chose de surprenant, de merveilleux, d'envoûtant, quelque chose qu'ils jugent incompréhensible pour les autres. Mais souvent, ils ne savent pas eux-mêmes de quoi ils parlent. Ils émettent des suppositions sur la parole de Dieu, en avançant des idées peu utiles à la fois pour eux-mêmes et pour les églises. Ils peuvent exciter l'imagination pendant un moment, mais une réaction se produit et ces idées se transforment alors en obstacles. La foi est confondue avec la fantaisie et leurs vues peuvent conduire les esprits dans la mauvaise direction. Que les déclarations directes et simples de la parole de Dieu soient la nourriture de l'esprit. Ces conjectures sur des idées qui ne sont pas clairement présentées sont dangereuses. Certains sont naturellement combatifs. Ils ne se soucient pas de savoir s'ils sont en harmonie ou non avec leurs frères. Ils aimeraient entrer en lutte, combattre pour défendre leurs idées. Mais ils devraient laisser cela de côté, car ce n'est pas cultiver les vertus chrétiennes. Employez toutes vos forces à répondre à la prière du Christ, demandant que ses disciples soient un comme il est un avec le Père. Pas une âme parmi nous n'est sauve, à moins d'apprendre chaque jour la douceur et l'humilité du Christ. Dans votre travail, ne soyez pas autoritaire, ne soyez pas sévère, ne soyez pas agressif. Prêchez l'amour du Christ, ce qui fera fondre les cœurs et les rendra soumis. Cherchez à avoir le même esprit, le même jugement et le même discours que vos frères. Parler de division parce que tous n'ont pas les mêmes idées que vous n'est pas l'œuvre de Dieu, mais celle de l'ennemi. Parlez des vérités simples sur lesquelles vous tombez d'accord. Parlez d'unité, ne devenez pas étroit d'esprit ou prétentieux, que votre esprit soit ouvert. Le Christ n'évalue pas le caractère à l'aune du jugement humain. Il dit « et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jean 12, verset 32. L'âme qui se laisse attirer par lui tournera le dos à l'iniquité. Le Christ est capable de sauver parfaitement tous ceux qui viennent à lui. Celui qui vient à Jésus pose les pieds sur une échelle qui va de la terre jusqu'au ciel. Enseigné par tous les moyens possibles que Dieu est en haut de l'échelle, les rayons éclatants de sa gloire resplendissent sur chaque barreau. Il considère avec bienveillance ceux qui montent avec peine. Il leur enverra de l'aide, l'aide divine, si la main semble lâcher et le pied trembler. Oui, dites-le par des mots qui feront fondre les cœurs, que quiconque montera cette échelle avec persévérance est assuré d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ceux qui croient en Christ ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ses mains. Dites à tous, dans un langage clair et plein d'espérance, comment ils peuvent échapper à l'héritage de honte que nous méritons. Mais au nom du Christ, ne leur présentez pas des idées propres à les faire sombrer dans le découragement, ou à faire paraître le chemin du ciel ardu. Même s'il nous faut souvent insister sur le fait que la vie chrétienne est une vie de lutte, qu'il est nécessaire de veiller, prier et travailler dur, que l'âme se met en danger si elle relâche sa vigilance, ne serait-ce qu'un instant, la plénitude du salut offert par Jésus, qui nous aime et s'est donné lui-même pour que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle, doit être notre thème de prédilection. Jour après jour, nous devons parler avec Dieu, approfondir notre connaissance du Seigneur, entrer dans le lieu très saint par le sang de Jésus et nous emparer de l'espérance placée devant nous. Pour atteindre le ciel, nous devons lier nos âmes au Médiateur, en devenant participants de la nature divine. Vous reposez sur le Christ, en cachant votre vie avec lui en Dieu, telle est votre espérance. Et conduit par son Esprit, vous avez la véritable foi. Croyant totalement en l'efficacité de son sacrifice expiatoire, nous serons les collaborateurs de Dieu. Confiant en ses mérites, nous devons travailler à notre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. En restant accrochés au Christ, nous nous approchons de plus en plus de Dieu. Jésus désire que cela demeure toujours important pour nous. Ne réveillez pas votre esprit combatif. La sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits.